puisqu'il est 19h sur Europe 1.
La primaire écologiste, les résultats du premier tour ont été dévoilés en fin d'après-midi. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau s'affronteront pour l'investiture en vue de la présidentielle.
Tentative d'apaisement des États-Unis à la suite de la crise des sous-marins français avec l'Australie. Joe Biden demande à s'entretenir avec Emmanuel Macron.
C'était la journée sans voiture. Aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, un enfer pour certains, une nécessité pour d'autres.
Le foot, Marseille-Barennes, une victoire assombrie par la disparition d'un des supporters les plus emblématiques de l'OM. La tendance met Théo Valérie Darmon.
Et bien après un temps instable ce lundi, le beau temps se réinstalle de mardi à jeudi, avant en fin de semaine le retour d'un ciel plus nuageux qui va donner quelques précipitations.
Météo complète en fin de journal. Ils étaient 5, ils ne sont plus que 2 et d'ici quelques jours, il ne devra en rester qu'un. Un seul pour être le candidat écologiste à la présidentielle.
Yannick Jadot et Sandrine Rousseau arrivent en tête du premier tour de la primaire avec respectivement plus de 27 et 25% des voix. Océane Théard, vous vous trouvez au pavillon des Canaux dans le 19e arrondissement de Paris où les résultats ont été présentés il y a un peu plus d'une heure et les deux finalistes ont pris successivement la parole.
Oui Sophie, et c'est d'abord Yannick Jadot arrivé en tête qui s'est exprimé au micro. Et pour l'eurodéputé, la victoire c'est d'abord cette participation record au premier tour de la primaire écologiste avec plus de 122 000 inscrits.
Vous avez plus de 100 000 Françaises et Français qui ont décidé de porter haut et fort la question du dérèglement climatique et 5 candidates et candidats qui ont participé avec force à faire de l'écologie une écologie de gouvernement. Une écologie qui est prête à assumer ses responsabilités.
Et c'est ensuite une Sandrine Rousseau triomphante et même émue qui a pris la parole. Elle que l'on considérait comme l'outsider. On ne m'attendait pas au second tour de cette primaire, ce sont d'ailleurs ses mots. Et bien c'est une victoire pour Sandrine Rousseau qui se revendique comme la candidate radicale de cette primaire.
Mon slogan est « Oui, les temps changent ». Levons-nous, écrivons une autre histoire de cette présidentielle. Une histoire citoyenne, sociale, ambitieuse et radicale, celle d'un réveil citoyen et écologique. Vous êtes prêts et prêtes ? Je le suis. Allons-y ensemble.
Et à l'issue de ce premier tour, ni Delphine Bateau ni Éric Piolle arrivaient respectivement en 3e et 4e place, non donné de consigne de vote.
Océane Théard, et le deuxième tour de cette primaire écologiste se déroulera du 25 au 28 septembre, toujours en ligne.
Et on se tourne vers le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel. Comment peut-on analyser ce résultat ?
Eh bien, c'est une vraie surprise, un scrutin extrêmement serré. Avec le plus mesuré de tous, Yannick Jadot, qui sur le papier sort favori de ce premier tour. Il se retrouvera donc au deuxième tour face à Sandrine Rousseau, qui elle est sur une ligne très radicale, très dure. Vous le voyez, deux lignes très opposées qui se retrouvent donc qualifiées. Mais là où ça se complique pour Yannick Jadot, c'est qu'au deuxième tour, il dispose de peu de réserves de voix. Et il est assez probable que les électeurs de Delphine Bateau et d'Éric Piolle se reportent assez largement vers Sandrine Rousseau. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir que fera Yannick Jadot s'il l'emporte ? Soutiendra-t-il Anne Hidalgo, la candidate de la gauche ? Ira-t-il jusqu'au premier tour de la présidentielle, quitte à prendre le risque de faire perdre toute la gauche ? Et que fera Sandrine Rousseau ? Ne sera-t-elle pas tentée de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon ? Même question, ira-t-elle aussi jusqu'au premier tour de la présidentielle ? En tout cas, à ce stade, pas de réponse. Une certitude, dans tous les cas, compte tenu de l'état de la gauche, si elle part divisée au premier tour de la présidentielle, elle a très peu de chances de l'emporter.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Et avant l'annonce des résultats de ce premier tour de la primaire écologiste, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a affirmé que son parti serait la surprise de la présidentielle. Olivier Faure qui appelle une nouvelle fois au rassemblement de la gauche et de l'écologie. La situation sanitaire tend à s'améliorer en France. Nous sommes sur la bonne voie, déclare Olivier Véran dans les colonnes du Parisien. Le ministre de la Santé confirme qu'un allègement des mesures sanitaires pourrait être décidé lors d'un prochain conseil de défense. D'abord dans les zones les moins touchées, puis dans l'ensemble du pays.
L'autre actualité très forte de ce dimanche, Sophie, ce sont les remous diplomatiques liés à la rupture par l'Australie du méga contrat des sous-marins français.
Hier soir, Jean-Yves Le Drian a eu des mots très forts, très durs. Grave crise, mensonge, mépris. mépris. Et aujourd'hui, dans un objectif d'apaisement, Joe Biden a demandé à s'entretenir très prochainement avec Emmanuel Macron. Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, un entretien dans les jours à venir, mais pas de date encore fixée. En tout cas, si la Maison-Blanche fait elle-même la démarche de solliciter un entretien, c'est que le message est passé. La colère froide du ministre, le rappel des ambassadeurs à Paris ont eu l'effet escompté, montré que la France prend la question très au sérieux. Tout dépend maintenant de la stratégie à adopter. Elle se décide ce soir, puisqu'Emmanuel Macron reçoit les deux représentants français aux États-Unis et en Australie, tout juste rentrés au pays. Il s'agit de définir plusieurs choses. La vision que la France a désormais de ses alliances, à quel point la confiance est affectée, et aussi rappeler l'importance de cette zone indo-pacifique pour l'Europe. Dans le même temps, il y a les Australiens qui cherchent à se justifier. Le Premier ministre Scott Morrison affirme que son pays avait de graves réserves sur les capacités de ses sous-marins. « Nous avons été honnêtes et francs », assure son ministre de la Défense. C'est pas le point de vue de la France qui estime que ces affirmations sont inexactes.
Jean-Sébastien Soldaini. À la suite de cette affaire, Xavier Bertrand a plaidé pour un sommet extraordinaire de l'OTAN. Alors la France doit-elle quitter l'Alliance Nord-Atlantique ? Pour Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et auteur du livre « L'OTAN au XXIe siècle », c'est une piste à étudier.
Le grand débat, c'est jusqu'où sortir, si vous voulez, parce que vous avez finalement des gradations dans cette sortie du commandement intégré. Nous étions rentrés au comité militaire en 1995. À mon sens, il est pertinent d'y rester. Et on avait franchi une petite marche supplémentaire en 2003-2004 qui prévoyait l'insertion d'une centaine d'officiers au sein de la structure, qui était un bon moyen de savoir un peu ce qui se passait, participer à la conduite des opérations sans être pleinement intégré. Il va falloir réintroduire du rapport de force. Les Français sont malgré tout des gens sérieux et que l'on peut considérer. Cessons de dire que les Français ne valent rien, sont une puissance en déclin, moyenne, etc. Quand vous êtes dans les cercles européens, personne ne considère la France de ce point de vue. Au contraire, on nous trouve plutôt arrogants.
Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et auteur du livre « L'OTAN au XXIe siècle ».
Et on reparle de ce dossier des sous-marins juste après votre journal. Sophie Tussaud, il est 19h07 sur Europe 1. Les obsèques d'Abdelaziz Bouteflika ont été célébrées à Alger cet après-midi. L'ancien chef d'État décédé vendredi à l'âge de 84 ans a été inhumé au carré des martyrs du cimetière d'El Alia.
Et Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui ses condoléances au peuple algérien. Le président a salué une figure majeure de l'Algérie contemporaine et un partenaire exigeant pour la France durant ses 20 années au pouvoir.
Le volcan Cumbre Vieja sur l'île de La Palma aux Canaries s'est réveillé après 50 ans de sommeil.
Oui, il est entré en éruption aujourd'hui. Les autorités ont commencé à procéder à des évacuations dans les zones habitées les plus proches du volcan.
C'était aujourd'hui une journée sans voiture à Paris et dans plusieurs autres villes comme Strasbourg, Clermont-Ferrand ou encore Angers.
Septième édition du genre à Paris où plusieurs projets sont en cours pour restreindre de plus en plus l'utilisation de la voiture. Des mesures contraignantes pour certains Parisiens rencontrés par Thibaut Hue pour Europe 1, mais nécessaire pour d'autres.
Plus un bruit de klaxon ni de moteur, les rues ont rarement été aussi silencieuses. Piétons et cyclistes sont ravis.
On trouve que Paris est très calme sans voiture. On n'a pas peur de se faire écraser à chaque coin de rue, sans les scooters qui roulent sur les voies cyclables. Maintenant, il n'y a que les vélos.
J'ai une voiture et donc normalement, là, je serais allé au ciné peut-être avec. Ça me force à prendre le métro, c'est tout aussi bien.
D'autres usagers sont révoltés.
C'est systématiquement contre la voiture. Donc en fait, la voiture est nécessaire à beaucoup de gens. Paris est complètement défiguré par les plots que la mairie de Paris a installés pour les cyclistes. C'est une privation de liberté. Oui.
Cette journée est symbolique, mais David Béliard, adjoint au transport de la ville de Paris, veut aller encore plus loin.
Nous avons pour ambition, en effet, de réduire drastiquement la circulation automobile en supprimant ce qu'on appelle la circulation de transit qui va concerner le centre de Paris. On s'est donné jusqu'à 2022 pour mettre en place cette ambitieuse zone à trafic limité pour améliorer la qualité de l'air, pour diminuer le bruit et puis pour apaiser Paris dans son entièreté.
Une mesure pour accompagner la limitation à 30 km/h dans la capitale en place depuis le 1er septembre.
Thibaut Hue, la circulation dans Paris est de nouveau ouverte depuis 18h.
On prend la direction de Nantes à présent, qui est en passe de devenir incontournable pour tous les aficionados de l'escalade.
Oui, ce week-end, plus d'une trentaine de nouvelles voies d'escalade ont été inaugurées sur les parois naturelles d'une ancienne carrière située en pleine ville. Cela fait désormais 60 voies dans Nantes. C'est inédit en France pour une ville loin des montagnes. Charles Guyard s'est essayé pour Europe 1 à cette activité désormais très prisée.
Le casque vissé sur la tête et une dizaine de mousquetons accrochés au baudrier. Hervé Silliol, cadre technique à la Fédération d'escalade, se lance.
Alors on va partir dans la voie là, c'est l'éperon.
Quelques immeubles autour, une route en contrebas et la Loire qui coule juste en face. Loin des sommets alpins ou pyrénéens, nous sommes ici en plein cœur de Nantes, dans une ancienne carrière où plus d'une soixantaine de voies sont accessibles aux grimpeurs, de plus en plus nombreux en loisirs et en compétition. Et ce dès l'école, Philippe Bravard, autre cadre fédéral.
C'est le troisième sport scolaire maintenant. Il y a des murs dans beaucoup de collèges et lycées. On peut avoir des maternelles, c'est ce qu'on appelle la baby escalade. Il y a une masse de pratiquants et il y a une pénurie de sites.
Et pour y remédier, l'investissement est somme toute assez modeste. Comme le confirme Francky Trichet, il est en charge de la pratique sportive à la métropole nantaise.
On a mis 50 000 euros pour sécuriser le site et pour consolider toute la falaise. Et aujourd'hui, pour 50 000 euros, on a quand même un espace de pratique sportive libre en plein cœur de ville.
Et la Loire-Atlantique compte ainsi 2000 licenciés, un chiffre en hausse depuis 10 ans et qui devrait encore progresser avec l'entrée de l'escalade au JO de Tokyo cet été.
Ok, c'est bon, tu peux descendre.
Nantes, Charles Guyer, Europe 1.
Et on passe au sport. Avec le football et la sixième journée de Ligue 1.
Et Marseille qui s'impose à domicile face à Rennes. Score final 2-0. On file tout de suite au Vélodrome où on retrouve Jean-François Pérez pour Europe 1. Jean-François, une belle opération pour les Phocéens.
Oui, l'OM qui a fait un beau cadeau en effet à ses 52 000 supporters. Cette victoire 2-0 face à des Rennais, souvent dépassés par l'enthousiasme de cette équipe marseillaise. Des buts signés Bamba Dieng, le jeune Sénégalais, et Amin Harit, le Marocain, sur un exploit individuel. Alors le spectacle aurait sans doute beaucoup plu à René Malville, le plus célèbre des supporters de l'OM, décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans des suites d'un triple cancer. Il incarnait Marseille jusqu'à l'excès, mais avec beaucoup de générosité, et son image sur l'écran géant du Vélodrome a été acclamée avant le coup d'envoi. À Marseille, René Malville était surtout connu pour sa minute chaque semaine sur le populaire site Le Phocéen. Elle durait en général 10 minutes. Et Romain Canuti, l'un de ses compères, en gardera de très grands souvenirs.
J'incarnais le supporter marseillais et c'était génial de l'avoir dans des débats parce qu'il y avait de l'humeur, il y avait la garantie avec lui d'avoir de l'humeur et d'avoir voilà ce qui nous caractérisait nous en tant que supporters de l'OM, c'est-à-dire après une défaite, on était tous pas contents et c'était quelque chose voilà qu'il arrivait à transmettre. Il avait ses formules bien à lui, il était capable de dire quel joueur lui plaisait, quel joueur ne lui plaisait pas et de l'exprimer de manière assez concrète.
Voilà, René Malville, tout comme Patrice De Peretti, alias Depé, l'autre supporter honoré cet après-midi, aurait également sans doute apprécié les stats de la soirée. C'est la troisième victoire d'affilée pour l'OM, qui prend la deuxième place du classement de Ligue 1, juste derrière le PSG.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Autre résultat, match nul entre Nice et Monaco, 2-2. Match nul également entre Troyes et Montpellier, 1-1. Et victoire de Nantes, 4-1 sur Angers.
Vous connaissez ce monsieur dans le studio, Sophie ?
Oui, son visage me dit quelque chose.
Ça va, Lionel Rousseau ?
Mais qui êtes-vous ? Bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir Sophie.
On va parler de sport ce soir, j'imagine.
Absolument, à partir de 20h, comme chaque vendredi, samedi, dimanche, Europe 1 Sport, avec à 21h le coup d'envoi du dernier match de la journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. Une très belle affiche. Sonny Anderson sera notre invité, ancien joueur de l'OL notamment. Il pense que l'OL peut poser des problèmes au Paris Saint-Germain de Messi. Le stade sera plein. C'est la première de Lionel Messi au Parc des Princes, officiellement avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et 253 journalistes accrédités pour suivre cette rencontre. On se posera avec nos experts aussi une question, car le PSG encaisse des buts, il attaque bien, il a des joueurs offensifs très intéressants, mais la défense peut poser problème. Est-ce que l'entraîneur Pochettino doit renforcer cette défense avec notamment 5 joueurs ? C'est de la tactique, Pierre Devineau, mais on vous explique tout ce soir.
Mais je vous suis,
mais je
vous
sais, écoute. Mais je le sais, j'y
comme
compte.
Ça, je vais tout comprendre.
J'y compte.
C'est comme un Rubik's Cube. Merci beaucoup, Lionel Rousseau.
Ce soir.
Et Europe 1 Sport, c'est donc à partir de 20h. Vous savez, hier, il y a eu des incidents en marge de la rencontre. Lens-Lille, qui comptait également pour la sixième journée de Ligue 1. Des supporters lensois avaient envahi le terrain durant la mi-temps et le match n'avait pu reprendre qu'une demi-heure après. Eh bien, la commission de discipline de la LFP se réunira demain pour évoquer ces incidents.
Merci pour ces informations précieuses, ma chère Sophie Tussaud. La météo, Valérie Darmon, à quoi va ressembler le ciel de notre semaine ?
Demain encore des averses du sud-ouest et du centre aux frontières de l'est. Le ciel est plus variable dans le nord-ouest avec des éclaircies. Les températures sont en baisse et d'ailleurs à peine de saison. Mardi et mercredi, pour l'arrivée de l'automne, le temps calme et ensoleillé revient après l'habituelle dissipation des grisailles du matin. La douceur revient aussi avec des températures proches des normales. Jeudi et vendredi, c'est plus mitigé au nord, entre la Manche dimanche à les frontières du nord-est, avec quelques averses possibles. Beau au sud, car au sud de la Loire, les conditions anticycloniques persistent avec un temps qui reste donc bien ensoleillé. Les températures fléchissent un petit peu au nord, mais restent très douces sur la moitié sud pour la fin de semaine.
Merci Valérie Darmon.